Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. S'il y a plusieurs routes pour se lancer dans l'aventure bébé, Justine est devenue maman par choix forcé, quand son gynéco lui donne un ultimatum. Si elle veut un enfant, c'est maintenant ou jamais. Elle a alors 28 ans quand on lui diagnostique une malformation à son ovaire droit. Dans la foulée, et après une longue attente de plusieurs mois, on lui annonce qu'elle a une ménopause précoce. À cette époque-là, elle est très loin d'imaginer tout ce qu'elle allait devoir endurer et traverser les 2 années qui ont suivi. Mais qu'est-ce qui dicte nos choix quand un jour on doit prendre la décision de faire un enfant toute seule? Comment fait-on pour maintenir la tête hors de l'eau face au tourbillon qu'est la PMA quand personne n'est là pour nous tenir la main? Dans cet épisode, Justine nous explique comment elle en est arrivée là, son parcours PMA, mais aussi comment elle gère aujourd'hui sa vie de maman solo. Bonjour Justine et merci d'être là aujourd'hui malgré ton emploi du temps de maman hyper chargée. Est-ce que d'abord tu peux te présenter?
Bien sûr, donc je m'appelle Justine, j'ai 32 ans, j'habite à Etterbeek et je suis la maman de Mia qui a maintenant 18 mois.
J'ai pour habitude de demander comment mes intervenants ont rencontré le papa de leurs enfants.
Ouais.
Alors ici on va comprendre via ton histoire que c'est un peu différent. Donc justement, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi c'est différent ?
C'est différent parce que j'ai eu Mia toute seule. J'essaie de moins en moins dire maman célibataire parce que du coup tu te concentres sur le célibataire, donc le couple, alors que c'est pas vraiment ça. Du coup j'ai plus envie de dire que je suis parent unique, ou en tout cas ouais, c'est juste Mia et moi, on est juste toutes les deux pour plein de raisons médicales qui ont été assez longues et un parcours assez chaotique de PMA et de fertilité, mais voilà, j'ai pris la décision de faire un bébé toute seule et d'être son parent unique.
Comment t'en es arrivée vraiment à te dire « Ok, je vais faire un enfant toute seule ?»
Ouais, c'est très long, mais pour t'expliquer la version la plus buvable...
On a le temps, ok.
En gros, j'ai une malformation à mon ovaire et à ma trompe. Donc mon ovaire droit et ma trompe droite sont complètement atrophiés. J'ai fait des tests génétiques et ça n'a rien donné, donc il n'y a pas de raison génétique en tout cas. J'aime bien dire que c'est Tchernobyl parce qu'au final on ne saura jamais trop ce que c'est. Et du coup j'ai une insuffisance ovarienne précoce, ou un peu, tu peux appeler ça une préménopause en fait. Donc il me reste très peu d'ovocytes disponible en tout cas pour faire des enfants quand on s'en est rendu compte. Et donc du coup...
Et tu avais quel âge quand on s'en est rendu compte?
C'était assez long parce qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite de la préménopause. J'ai eu des kystes aux ovaires, dans mon seul ovaire qui fonctionne, quoi, mon ovaire gauche. J'étais chez une gynéco à l'époque, chez qui j'avais été un peu par hasard, vu que j'arrivais sur Bruxelles, donc j'avais changé de gynéco. Et elle m'avait dit « Ouais, t'as un kyste dans l'ovaire gauche, mais on va à ton devoir, souvent ça part tout seul. » Et en fait, tu fais confiance, donc elle m'avait proposé d'attendre un an avant de revenir chez elle la voir, quoi. Et en fait, j'étais déjà pas très bien à cette période-là, je le sentais. J'avais beaucoup de cellulite, je perdais beaucoup mes cheveux. Maintenant, quand je relis ce que j'écrivais à l'époque, je voyais que j'étais vraiment dans une période hyper compliquée dans ma tête, où je te disais tantôt, je suis au bon endroit, au bon moment dans mon job. Là, c'était pas du tout le cas, et je comprenais pas pourquoi.
Ça t'impactait vraiment émotionnellement, c'était pas juste physique, en fait.
Ouais, ouais. Je pense qu'émotionnellement, j'étais vraiment dans un énorme creux. Mais sans vraiment savoir que c'était hormonal, quoi.
Oui, tu t'en rends compte maintenant avec
Maintenant, je le sais. Et surtout, ça me fait tellement du bien de me dire maintenant, en fait, c'est hormonal, quoi.
Il y avait une raison.
J'étais pas juste dépressive à un moment.
Parce que tu passais par une phase dépressive.
Je sais pas dire si à l'époque c'était dépressif, mais en tout cas, je savais que c'était une période compliquée, quoi. Et du coup, je suis retournée un an après chez elle. Et là, elle m'a dit « Oh, ben, je vois 2 kystes dans ton ovaire. Il faudrait faire une écho plus poussée parce que moi, je n'ai pas les outils pour voir c'est quel type de kyste, etc. » Donc, je vais à l'hôpital d'Etterbeek, je prends rendez-vous. Et là, l'échographe me dit « Ah, mais vous ne m'aviez pas dit que vous n'aviez pas d'ovaire droit. » Et donc, j'étais là « Ben, non. » Donc, on s'est un peu tous les deux regardés, genre, on ne comprenait pas ce qu'on était en train de se dire, quoi. Donc là, la médecin, elle s'est reprise et elle m'a dit « Ok, les organes, ça bouge, donc reviens chez moi dans une semaine, quoi. »
Ok.
Là, moi, j'étais super paniquée. Je suis revenue chez elle quelques jours après, elle m'a dit « Ok, je le vois toujours pas, tu retournes pas chez ta gynéco et tu vas ailleurs, quoi. » Et du coup, j'ai rappelé mon gynéco précédent chez qui j'étais quand j'habitais encore à Charleroi chez mes parents et en qui j'avais complètement confiance, donc voilà. Je l'ai appelé, il m'a dit « Tu viens demain » et là, IRM pour essayer de savoir ce qui se passe. Et puis, il m'a dit « Tu n'as pas deux kystes, en fait, on a cinq. » Et donc voilà. Donc là, les choses s'enclenchent. Avec ma famille et mes amis, on a appelé mon ovaire perdu Charlie parce qu'on était là. Où est Charlie ? On a fait une soirée sur le thème de où est Charlie pour essayer de dédramatiser complètement la chose. Donc je me fais opérer, je pense que c'était le 19 décembre. Et le lendemain matin, il est venu m'expliquer qu'en fait, j'avais une malformation.
Okay.
Et donc le seul ovaire qu'il a opéré, il a fait ça comme un pro pour essayer de vraiment sauver mon ovaire au max, vu que l'autre en fait est complètement atrophié, collé sur une paroi, enfin bref, il m'a dit il sert à rien, donc on peut pas compter sur lui, quoi.
Plus jeune, t'avais des signes avant-coureurs, est-ce que t'avais des règles régulières
ou... Ouais, hyper régulières, je pense que comme nous toutes qui prenons la pilule, oui t'es impactée par ta pilule, j'ai toujours eu des règles super régulières.
Donc tu t'es vraiment jamais posé de questions avant ?
Je te dis, avant d'avoir vraiment ce down et ces signes un peu extérieurs de problèmes hormonaux, jamais je m'étais posé la question.
Mm-hmm.
Vraiment jamais. Donc je me fais opérer en décembre, mais je te dis, j'avais mon master et je voulais vraiment le finir, c'était vraiment super important pour moi à l'époque. Et donc du coup, il m'avait dit, on se reverra plus tard dans l'année, quand t'es prête, tu me le dis. Et on voit pour congeler tes ovocytes.
Il te dit directement...
J'avais une copine à l'époque, plus âgée que moi, qui était en cours avec moi, qui, elle, était dans le process pour faire congeler ses ovocytes. Et je me suis dit, ouais, c'est ce que je dois faire. Si j'ai qu'un ovaire et que je refais des kystes ou en fait, il y a un problème, il faut que je le fasse, quoi.
Mm-hmm.
Mais on n'avait aucune vue sur ce côté ménopause. Donc, tu vois, je voyais, entre guillemets, pas le danger. Je me disais, genre, ça va, j'ai un peu de temps... Je finis mon master en juin. Je me suis dit, je profite de l'été, je ferai ça en septembre. Et en effet, mon gynéco m'avait dit, oui, t'inquiète, on se voit en septembre. Mais la règle dans les hôpitaux avait un peu changé. Si t'avais en dessous de 35 ans, tu devais quand même avoir un bon dossier médical pour justifier qu'on congelait tes ovocytes ou qu'en tout cas, tu passais par la PMA.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est une question de budget ? Mine de rien, la PMA, t'as quand même des risques de caillots, de phlébites, etc. Donc, c'est quand même pas sans conséquences. Et donc, du coup, je pense que... Et ce qui est injuste, hein, c'est hyper injuste parce que tu devrais pouvoir le faire juste à ta volonté et sans avoir d'avis médical hyper poussé derrière. Mais du coup, il m'avait dit, on va faire une prise de sang hormonale pour voir où t'en es et un peu solidifier ton cas si on doit passer par quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Et du coup, on a fait une prise de sang hormonale. Et c'est la première fois qu'on faisait une grosse prise de sang hormonale et qu'on calculait mon taux d'AMH. Donc l'AMH, c'est une hormone qui s'appelle antimullérienne et en fait qui te donne une vue sur ta réserve ovarienne. Donc on est tous avec un certain nombre d'ovocytes et en fait ce nombre décroît jusqu'à ta ménopause. Que tu sois ménopausée à 30 à 50 ans, le principe d'être ménopausée, c'est que t'as plus d'ovocytes, quoi. T'es à zéro. Voilà. Après, je suis pas médecin, mais c'est je suppose pour vulgariser un peu. Et donc, il me dit... Donc, on calcule ce taux d'AMH qui donne un peu une vue sur, OK, ta réserve ovarienne est bonne, on a le temps, on va avoir un bon nombre d'ovocytes et tout. Normalement, à notre âge, vers la trentaine, tu dois être plus ou moins entre 1 et 3, quelque chose comme ça. Je pense qu'au-dessus de 3, c'est un peu trop haut. En dessous de 1, t'es déjà ménopausée. En dessous de 0,5, ça pue. Et donc, je me souviens très bien parce qu'il m'a appelé pour me dire, ton taux d'AMH est à 0,4. Donc, j'étais là... Ok, mais donc j'ai pas juste une malformation en fait, j'ai plus que ça. Là, j'avoue qu'il m'a pas hyper bien expliqué. Donc là, j'ai fait tous les sites Google de la Terre en français, néerlandais, anglais pour vraiment comprendre c'était quoi l'AMH, c'était quoi les implications. Et on a mis du temps avant de mettre vraiment le mot préménopause dessus. Hein. Que t'appelles ça insuffisance ovarienne ou préménopause, moi dans ma tête, peut-être que d'un point de vue médical c'est différent, mais moi dans ma tête c'est un peu pareil, quoi.
Mm-hmm.
En tout cas je le vis comme ça. Et donc là on avait une vraie urgence de temps, quoi, qu'il n'y avait pas eu avant. Et
donc quand on te parle de congeler tes ovocytes, à ce moment là tu te dis je vais les congeler, mais j'ai le temps avant de penser à faire vraiment un bébé
à fond, à 100%, parce que je me suis toujours dit dans ma tête, je me suis jamais dit autre chose que je vais rencontrer un gars, je vais me marier parce que j'adore les mariages et puis je vais faire des enfants, quoi. Je me suis jamais dit autre chose. Bon, personne en étant ado se dit genre, non, en fait, plus tard... Si, probablement, mais je veux dire, dans la norme, parce que je suis dans la norme, mes parents sont toujours ensemble. La plupart de mes oncles étant, je dirais quasiment tous, ils sont toujours ensemble. J'ai vraiment grandi dans ce schéma-là.
Donc, tu n'envisageais pas autre chose que...
Ah non, mais il n'y avait même pas moyen, non, mais... quoi. Oui. C'est vraiment le plus gros deuil que j'ai dû faire dans toute cette histoire, c'est de... pas avoir ça, quoi. Du coup, la claque était encore plus violente, parce que... Parce que, oui, quand on m'a dit, en fait, c'est maintenant ou jamais, j'étais toute seule, je m'y attendais... Ben, personne ne s'attend à ça, mais ouais, c'était vraiment dur. C'était vraiment très, très dur. Et à cette époque-là, quand il m'a donné le diagnostic, j'ai été voir d'autres hôpitaux pour vérifier que ce qu'il disait était juste, en fait. Et, et je l'ai appelé pour lui dire, pour le prévenir, et j'avais pas envie qu'il le prenne mal, ce qui est un peu débile, en fait, parce que c'est ta santé, tu fais ce que tu veux. Mais j'avais une telle relation de confiance avec lui à ce moment-là que je m'étais dit, ok, je vais juste le prévenir de où j'en suis et ce que je fais. J'avais été voir l'UZ et Saint-Luc et il m'avait dit la même chose. En effet, c'est maintenant. Enfin, en fait, tu sais, on ne sait pas vers quoi ça va aller, donc il faut tenter quelque chose, quoi.
Et au niveau sentimental à ce moment-là ?
Bah, c'était un peu le désert. Déjà, ma libido était nulle. Elle était vraiment basse et je comprenais pas pourquoi. Franchement, pendant très longtemps, il s'est juste rien passé dans ma vie. De ce point de vue-là, maintenant, je sais pourquoi. Mais à l'époque, je comprenais vraiment pas pourquoi.
Et ça, ton gynéco te l'a pas expliqué non plus, non, quand il a détecté la
maladie. Mais
en
même temps, mon gynéco, sa spécialité, c'est la fertilité. Et donc, du coup, lui, il s'est juste concentré sur le fait que j'ai un enfant. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai été à la clinique de la ménopause et là, on en a enfin parlé. Mais en effet, là, on était dans la course au bébé. D'abord, on était dans la course au congé des ovocytes. Et donc, évidemment, on parlait pas du tout de ça. C'était vraiment... c'était un peu l'obsession. Et c'est bien simple, quand il m'a remis à niveau hormonal et qu'il m'a donné des hormones pour me booster, là, j'ai eu une vraie libido où je me disais, genre, en fait, c'est ça que je devrais ressentir. Et je retrouvais mon corps où j'avais beaucoup plus confiance en moi et je me sentais juste beaucoup plus équilibrée. Et je me disais, c'est pas comme une drogue, mais un peu, t'as un peu un coup de boost, là, d'un coup. Je me disais... Enfin, je me sens femme. Et donc les hormones, pour ça, c'est fou. Franchement, c'est fou. Et maintenant que je le sais, je le vis beaucoup mieux maintenant au quotidien parce que maintenant, je le gère beaucoup mieux aussi et que je peux mieux identifier, ok, non, je suis juste en colère ou ouais, ok, là, c'est peut-être hormonal. Maintenant, ça va mieux. Hein. Mais du coup, en fait, pendant longtemps, je pensais juste pas être en couple. J'y pensais même pas. Parce que juste, ça me traversait pas le cerveau, quoi. Mm-hmm. Je sais pas t'expliquer pourquoi. Je pense que si j'avais rencontré même... Même si Brad Pitt m'avait demandé de m'épouser à l'époque, je l'aurais pas vu, quoi. Franchement, je voyais rien. Ça m'intéressait pas. J'étais... Ouais, je pense que mon corps avait trop de choses à processer, quoi.
Avant ça, est-ce que t'avais envie d'un enfant, justement ?
J'y pensais pas. Si, je pense que j'avais un instinct maternel, mais je me disais que ça arriverait quand ça arriverait. Mais j'y pensais pas, non. Je vivais ma vie. J'avais pas... Tu sais, il y a ces femmes qui ont... Et que j'admire à fond d'avoir ce besoin irrépressible de faire des enfants. Moi, j'avais pas ça. Ouais, je voyais la valeur ajoutée.
Oui.
Mais c'était pas pour maintenant. Quand on a commencé à congeler, je me suis vraiment dit, bon, je verrai plus tard. Mm-hmm. Mais au moins, j'ai su l'aide de sécurité, là, quoi. Comme tous les principes de PMA dès le début, bah, t'as des piqûres d'hormones pour te booster et pour booster ta fertilité. Et...
Ça dure combien de temps, ça, du coup ?
Ça dépend de comment tes ovaires réagissent. Je pense qu'à chaque fois, c'était une dizaine de jours de pilules, de piqûres, pardon. C'est à heure fixe. Chez toi, le soir, tu peux décider de l'heure. Moi, j'avais décidé que c'était le soir. Au début, j'osais pas les faire moi-même. Je suis pas une grande fan de piqûres. Je vivais en coloc et Margot m'a fait mes piqûres. La toute première piqûre, c'était vraiment épique parce qu'on est... Parti en Jordanie avec mes amis. Mon voyage était planifié pour la Jordanie. Et mon cycle d'ovulation correspondait à mes genre 3 derniers jours en Jordanie. Allez, 2-3 derniers jours en Jordanie, quoi. Je voulais pas annuler mon voyage. Et j'avais demandé si je pouvais partir avec mon traitement. Mais ton traitement, il est censé rester au frigo. Et le gynéco m'avait dit, oui, pars, mais tu te débrouilles, quoi. Avec ton traitement, mais tu le gardes au frigo, tu prends 4 piqûres au cas où. Non, j'avais 3, ouais, 3-4 piqûres, j'avais avec. Franchement, c'était rocambolesque. Parce que, même dans l'avion Ryanair, quoi. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien mettre mes piqûres au frigo ? Les hôtels, mais bon, c'est la Jordanie, donc... je veux dire, on partait pas dans le sud de la France où je savais qu'on passait 2 nuits dans le désert. Non, ah, une nuit dans le désert. Ah ouais, non.
Ah
mais...
oui, non, ok. Ouais,
oui.
À la route, quoi.
Ah ouais, ouais. Ouais, non, mais dans le désert, c'était génial. Et on en rigole encore parce qu'on demandait à notre guide s'il avait de la glace. Parce que moi, je me disais, genre, ça va pas tenir la nuit. J'étais hyper parano. Et on lui disait genre, « Do you have ice? Ice? » Et il a de bas nous répéter, « Yes, it's very nice. » Genre, « Tu vas voir, it's very nice. » Et on était là, « Non, mec, il nous faut de la glace. » C'est vraiment un dialogue de sourds. Et maintenant, on en rigole à fond. Mais ouais, c'était vraiment épique de traîner mes piqûres partout dans la Jordanie. Donc, on a fait un premier round. Et donc, ouais, une semaine après être rentrée en Jordanie. Et en effet, t'as des échos, t'as des prises de sang pour vérifier tes taux d'hormones et puis le nombre d'ovocytes que ton corps produit. Et donc, je pense que, après, peut-être que je me trompe, et il y a plein de gens qui pourront l'expliquer bien mieux que moi. Et encore une fois, c'est assez flou maintenant, mais je pense que c'est bien si t'en as entre 10 et 20. C'est une bonne moyenne, en sachant que, encore une fois, c'est vraiment un entonnoir. Donc, t'as le nombre de follicules, t'as les ovocytes qui sont pas tous viables, puis il y a ceux que tu vas enlever, qui vont tenir, la congélation, etc. Donc, t'as vraiment cet entonnoir de dire il faut un max dès le début, sans savoir aussi après si tu fais des fibres, les embryons, ceux qui vont tenir. Donc 20, ça paraît beaucoup, mais non, pas tant que ça. Après 10 jours d'un traitement, je pense j'en ai 3-4. Donc c'était vraiment pas incroyable. Donc là, c'est un peu la douche froide, parce que je me dis ça va pas fonctionner, quoi.
Et ton gynéco te dit quoi ?
Il me dit on arrête et on va tester un traitement plus fort. Donc c'était déjà pas mal. Et il me dit aussi, je vais te mettre sous œstrogène et progestérone dans la vie de tous les jours pour déjà booster ton corps de base, quoi. Et puis on a refait un deuxième round. Et là, c'était vraiment dur. Là, c'était vraiment, vraiment difficile. Parce que j'étais hyper stressée de ce qui allait se passer. Et puis aussi juste, ouais, c'est super dur à vivre les hormones. Maintenant, avec le recul, et je pense que c'est pour ça que j'ai oublié tant de choses, parce que c'est super difficile à gérer, quoi. C'est le bordel dans ta tête, ton corps n'arrive pas à suivre, enfin, franchement, c'est dur. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dur. Et là, pareil, 4, 5, quelque chose comme ça, quoi. Donc, vraiment rien qui justifiait que je me fasse opérer. Donc okay. Là, ça a vraiment été la descente aux enfers. Et mon gynéco m'a appelé, je me souviens, c'était un jeudi, en janvier, pour me dire « on va pas s'acharner ». Vraiment, c'est pas possible parce qu'en fait, on va t'épuiser toi et on va épuiser ta réserve alors qu'on n'a aucune vue sur si ce qu'on va réussir à prendre va être congelable et puis la suite, quoi. Et donc là, c'était vraiment ça a été la descente aux enfers parce que déjà, j'étais boostée super fort et puis plus rien. Et là, j'étais déjà suivie psychologiquement par l'hôpital. Et là, bah, ça a été plus que nécessaire parce qu'ils m'ont mis un mois et demi en arrêt. Mmh. J'étais vraiment immunodépressive. J'ai voulu partir à Paris 3 jours, toute seule, pour faire le vide un peu. Après, qui m'est appelée pour me dire, écoute, c'est plus possible. Donc, si tu veux un bébé, c'est maintenant ou jamais, en fait. Et donc, du coup, là, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Je suis partie à Paris et j'ai fini par appeler ma mère parce que j'avais les oreillons, 40 de fièvre, j'étais au bout du rouleau, quoi. J'étais vraiment au bout du rouleau, ils m'ont mis en arrêt maladie, ouais, un peu plus d'un mois, un mois et demi je crois. Mais même, en fait, avec le recul, j'aurais dû prendre plus, mais ça m'a fait du bien de juste pleurer et dormir. J'ai fait que ça pendant un mois, quoi, pleurer et dormir, et j'étais vraiment au bout de ma vie et c'était un choc, quoi, c'est vraiment un choc émotionnel. En fait, ma vie, elle est complètement changée.
Est-ce que tu connaissais dans ton entourage quelqu'un qui traverse ou qui avait traversé la même chose que toi ?
Bah, ma maman, ils ont fait 6 inséminations pour avoir ma petite sœur. Donc, c'est pas un sujet tabou chez moi. Du coup, j'avais lu, évidemment, plein de trucs, mais je connaissais personne qui vivait ce que moi, je vivais.
Donc, t'étais quand même fort seule dans
J'étais hyper seule, planète. Même si j'étais super entourée, mais j'étais super seule. Mm-hmm. Super seule parce que déjà, la malformation, c'est déjà quelque chose. Et puis, surtout, c'est ta féminité, quoi. Mmh. C'est ton organe féminin, déjà ça, processer ça, la ménopause, pareil, c'était vraiment un coup dans ma féminité, alors que moi qui suis très féminine et hyper féministe, et c'était vraiment pour moi c'était vraiment un coup de poignard dans tout ce que j'avais envie d'être, en fait. Jamais trop ma vie, enfin, tu vois. Oui, c'est dur à cette période-là, mais j'avais pas envie de changer de vie. J'étais en coloc avec Margot, j'adorais mon boulot. Là, franchement, ça a été la descente aux enfers, et c'est vraiment une période difficile.
Et donc, après cette deuxième tentative, qu'est-ce qui se passe ?
Ben là, il m'a donné 3 à 6 mois pour réfléchir.
Ok.
Donc, c'était en janvier, il m'a dit, je te donne quelques mois pour réfléchir, et puis tu me dis si tu veux te lancer ou pas. Là, il s'est rien passé. Si, il m'avait gardé un peu sous hormones. Mais vraiment pour que j'ai un taux honnête. Et au cas où je voulais me relancer, on ne devait pas repartir de zéro. Et là, pendant cette période, j'ai genre ruminé pendant des semaines et des semaines. Surtout que c'est hyper difficile de faire un choix rationnel. C'est pas du tout... parce que tu sais que ta vie va changer, donc c'est même pas que tu peux faire une liste de pour et de contre. C'était impossible de faire un choix rationnel. Et surtout, socialement, c'était hyper difficile parce que tout le monde me donnait son avis. Il y a plein de gens qui me disent « Moi, à ta place, je suis là. » Non, il n'y a personne qui peut comprendre. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, j'ai trouvé personne qui a vécu ce que j'ai vécu. Donc voilà, cette personne, peut-être, si un jour elle existe et qu'on parle toutes les deux, ouais, elle pourra me dire, elle, ce qu'elle aurait fait à ma place. Mais oui, et bien sûr, t'as des gens maladroits. Et puis aussi, je vivais toutes les annonces de grossesse des gens autour de moi. On a les débuts de trentaine. Ma meilleure amie, elle a accouché 3 semaines avant moi et elle m'a dit, heureusement que t'es tombée enceinte, parce que sinon, ça aurait été vraiment dur pour moi de te l'annoncer. Et ouais, une de mes collègues, une fois, avait annoncé sa grossesse alors qu'on buvait un verre tous ensemble. Et franchement, j'étais dans mon... Je pense que c'était le deuxième round en PMA, donc c'était vraiment le pire. Et j'avais quitté le verre, mais pas genre une petite larme à l'œil, quoi. Je m'étais vraiment effondrée, j'avais pleuré. J'en avais dû me ramener à ma voiture, chercher mes affaires, à mon bureau et tout. J'avais vraiment pleuré. Mais genre super fort, quoi. Et elle l'avait vu, même si je m'étais vraiment cachée pour pas la rendre triste. Elle est tombée enceinte du deuxième. Elle vient d'accoucher il y a pas longtemps. Et quand elle est tombée enceinte du deuxième, elle m'a appelée en me disant genre... Du coup, je te le dis avant tout le monde. Là, ça me touche, ça me fait hyper plaisir. Mais maintenant, ça va, j'en ai un de bébé. Mais donc, ouais, les annonces de grossesse...
C'était compliqué.
Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, et même encore maintenant, socialement. Parfois, j'ai de la rancœur de voir des couples qui essayent même pas et qui arrivent. Ou juste de voir des couples, parfois. Ça, c'est encore la dernière étape. Pour moi, de toute cette période-là, quoi, c'est de vraiment se dire... ouais, de plus avoir de rancœur par rapport à ça.
Et finalement, qu'est-ce qui t'a guidée dans ta décision ?
En fait, je voulais pas avoir de regrets. C'était ça, la dernière chose où je me disais... je veux pas regretter d'avoir au moins essayé. Ouais. Je me suis dit, si je meurs demain, je veux au moins avoir essayé. Je me le dois à moi-même et tant pis si c'est dur. D'élever un enfant toute seule, mais je me devais de l'essayer, tu vois. Et c'est ça qui a fait que j'ai fini par prendre mon téléphone et appeler mon gynéco en disant... Ok, on y va. C'était au mois de mai.
Et comment se passe du coup cette... Donc tu prends la décision, tu t'appelles ton gynéco.
Je l'appelle le jeudi, je crois. Oui, c'était un jeudi ou un vendredi. Et il me dit, ok, ben, on commence la semaine prochaine. Il dit, non, je pense qu'il m'a dit, j'appelle l'hôpital et je te rappelle. Et il m'a dit, on a réouvert certaines procédures de PMA, mais il faut remplir un certain nombre de critères. Et moi, évidemment, je gagnais tous les critères, quoi. Moi, j'étais numéro 1, insuffisance ovarienne, jeune. J'avais vraiment, là, j'avais la carte verte. Et donc, du coup, il m'a dit, je te rappelle. Il m'a rappelé, il m'a dit, on commence jeudi prochain. Mais genre, c'était une semaine après. Et il me dit, et mardi, la PMA t'appelle pour choisir pour le donneur. Et le lendemain soir, on a fait un souper pour décider avec mes potes comment on choisit un donneur. Quoi. Donc le lendemain soir, le vendredi soir, on en parlait. Alors, quels critères on choisit ? Normalement, évidemment, tu vas sur place, ils voient à quoi tu ressembles, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'ils sont en bonne santé. Donc voilà, je voulais juste quelqu'un de grand parce que je suis la plus petite quasiment dans ma famille. Et ils m'ont appelé le mardi... pour qu'on discute de ce qui était important pour moi. Et moi, j'avais dit, ouais, principalement la taille de cette personne. Mmh. Elle m'avait expliqué tout, comment ça fonctionnait. Tu peux avoir un donneur de ton entourage, tu peux avoir un donneur anonyme, tu peux décider de payer pour garder le sperme de ce donneur si tu veux avoir un deuxième enfant pour qu'ils aient le même donneur. Tout ça, elle m'explique au téléphone. Et puis, on raccroche. Et je me rends compte que je lui ai pas dit que j'étais... blanche de peau. Et donc, je l'ai rappelé en disant, en fait, je suis caucasienne, je ne l'ai pas dit au téléphone. Et donc, j'avais dû lui expliquer à quoi je ressemblais. Etc. Oui. Et elle m'avait dit, bah, Justine Lambert, c'est pas hyper exotique. Et j'avais dit, ok, mais tu ne me vois pas. Je pourrais être adoptée, donc je préfère juste te le dire. Quoi. Déjà, le coup de fil du donneur, j'ai beaucoup pleuré après. Je me souviens que j'ai raccroché et j'ai fondu en larmes en me disant, je suis en train de choisir le donneur de mon bébé... toute seule en confinement. Enfin, franchement, c'était dur. C'était dur, c'était une grosse étape. Mais juste, ça concrétisait ce qui allait se passer, quoi. Et du coup, quelques 8 jours après avoir démarré les piqûres, il m'a dit, t'as 2 ovocytes, on va le tenter.
T'en avais encore moins que les deux premières fois, donc.
Ouais. Il me dit, on va faire une première insémination et on va le tenter, en fait. Donc, rendez-vous hôpital. En effet, il y avait... Mais tu vois, les hôpitaux, comme au premier confinement, c'était la guerre. Mm-hmm. Donc, déjà, j'étais la seule à repasser en PMA. Donc, elles étaient hyper... Je pouvais évidemment y aller. J'étais obligée d'aller toute seule. Donc, ça aussi, c'est un peu une étape. Mon amie Pauline m'avait conduit, mais elle avait attendu dans la voiture. Dans l'hôpital, j'étais toute seule. Mais on t'explique pas. J'avais pris une culotte de rechange. Mm-hmm. Au cas où, ça coulait, quoi. Et le gynéco, c'était trop marré en me disant, mais... Non, non, c'est pas comme quand tu fais l'amour, enfin, tu vois, c'est pas mon principe, mais j'avais dit, bah, j'en sais rien, vous m'avez rien dit, donc j'ai pris une culotte de rechange, j'avais mis une robe pour que je doive pas me déshabiller pour complètement, t'étais facile. Déjà mal à l'aise quand t'es sur le siège de ton gynéco, quoi, donc vraiment, j'ai été super pragmatique, je me revois avec mon taux de bac et ma culotte de rechange. J'avais demandé à l'infirmière de rester à côté de moi et de me tenir la main, puisque c'est... Franchement, ouais, c'était une grosse étape.
Seule,
ouais. Et puis, ben, on a prié. Et là, miracle de la vie. Vraiment la revanche sur la vie. Je suis tombée enceinte du premier coup.
Wow. T'y croyais pas ?
Je m'étais dit, ça va prendre 5-6 fois. Je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête. Mon instinct me disait 5-6 fois. Donc, je m'attendais pas du tout à tomber enceinte du premier coup. Déjà, j'étais toujours en coloc. Je commençais à regarder avec mes parents pour acheter un appartement parce que du coup, on s'était dit, c'est le bon timing. C'est mm-hmm. maintenant, quoi. Du coup, juste premier confinement, quand les prix n'étaient pas encore incroyablement hauts, j'ai trouvé un appart assez rapidement. Là aussi, j'ai eu la chance. Mais j'étais toujours en coloc avec Margot qui a vécu mes premiers mois de grossesse, quoi. Et donc, bah, les 15 premiers jours où t'attends, mes amis m'avaient fait un calendrier de l'avant de l'attente pour décompter les jours jusqu'à cette première prise de sang que tu fais pour confirmer que tu es enceinte. À la PMA, elle m'avait dit « ne fais pas un test de grossesse trop tôt ». Parce que s'il est négatif, tu vas être dégoûtée et il ne faut pas que ça ait un impact, donc attends, quoi. Je m'étais décidée de le faire. Dans ma tête, je m'étais dit, la prise de sang était le vendredi matin. Et je m'étais dit, ok, je fais le test le jeudi et je ne le dis à personne. Mais j'avais quand même une coloc. Donc, j'avais fait mon test toute seule, sans lui dire que j'allais le faire. Et puis là, il était positif et d'office, je lui ai dit. Puis j'ai appelé ma mère, puis j'ai appelé plein de gens, en fait.
Ok.
Donc, hyper excitée, même si t'attends quand même ta prise de sang du lendemain, quoi. La prise de sang, j'étais la première à l'ouverture des prises de sang à 7h du mat.
J'imagine.
Avec les yeux pleins de larmes, de dire à l'infirmière, genre, mets mon dossier au-dessus de la pile. Et là, l'attente interminable, parce que mon gynéco avait des opérations le matin. Et c'est lui qui doit t'appeler pour... te le dire,
oui, oui.
Cette pauvre secrétaire que j'ai harcelée en lui disant genre, et elle me dit genre, mais je vous le jure, dès qu'il sort de la salle d'opération, je vais le chercher directement, je vous le promets et tout. Et j'avais pris congé ce jour-là, mm-hmm. en me disant que ce soit positif ou négatif, même si j'avais mon test la veille, et on avait été chez Ikea avec, du coup, avec ma mère et ma soeur, et j'ai dit, j'en ai marre d'attendre chez moi, je deviens dingue, donc on va chez Ikea, quoi. Et il m'a appelé quand j'étais au rayon table de nuit chez Ikea pour me dire « t'es enceinte ». Et on était, lui et moi, super excités. On a pleuré toutes les trois dans le Ikea. On est sortis parce qu'on ne servait plus à rien et qu'on faisait que pleurer et de joie. Et puis voilà. Il a tombé enceinte et puis il faut que ça tienne. Donc je me disais, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, quoi. Ça ne va pas tenir. Et ça a tenu. Et j'ai vécu une grossesse hyper facile. Et c'était trop bien parce que je vivais enfin un truc normal. Ouais. Comme n'importe quelle femme, j'avais juste une grossesse facile. Tout se mettait bien.
Et tu te sentais bien dans ton corps de femme enceinte ?
Ouais, ouais, ouais. Bah, même si personne ne m'a vu qu'on était en plein confinement. Mm-hmm. Mais ouais, je me sentais bien. Et bien sûr, j'avais des coups de stress, mais je pense comme toutes les mamans, c'est quand tu le sens pas trop bouger, que tu te prends des petits stress, etc. Mais ouais, je me sentais bien. J'ai vraiment une grossesse facile. Il m'avait mis sous hormones les 3 premiers mois et après c'est le placenta qui prend le relais. Mmh. Et donc du coup, je me sentais plus ou moins tout le temps bien. Quoi.
Ok, ouais.
Donc, et j'ai travaillé jusque 3 semaines avant.
Et justement, ouais. Est-ce que tu t'étais préparée à l'accouchement ou l'accouchement pour toi c'était quelque chose que tu
redoutais ? Non, non. Moi je suis contre le fric, donc d'office je me suis préparée à l'accouchement comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens quoi. On était dans les moments d'incertitude où on se disait, ok, est-ce que tu peux accoucher tout seul, pas tout seul, avec masque, sans masque. Enfin, c'était un peu dans cette période-là. Je m'étais préparée avec la kiné et j'avais fait les exercices de préparation avec une amie parce que je m'étais dit, jamais j'accouche avec ma mère. Je m'étais vraiment dit ça et au final, j'ai accouché avec ma mère parce que tu peux avoir qu'une seule personne qui faisait tout. Donc, ton accouchement et les 3 jours après. Et je voulais que les 3 jours après...
Ce soit
ma maman. Et au final, C'était ma mère qui dit toujours, genre maintenant, genre, en tout cas, quand t'es mère, tu l'es vraiment jusqu'au bout.
Est-ce que du coup, tu peux nous raconter le jour J, le jour de ton accouchement après ces longs mois d'attente ?
Mon travail s'est déclenché. En rentrant le soir, ben, chez Amandine, j'avais été voir son bébé. J'ai une photo avec son bébé sur mon énorme ventre. Et en rentrant, j'ai senti que j'avais des contractions plus fortes que d'habitude. Tu sais, on te conseille toujours de rester un max à la maison. Donc je m'étais dit, bah, je vais attendre. Ouais. Et puis j'ai commencé à calculer. Et puis à regarder des films, à attendre. Ça a commencé à s'intensifier. Mais je passais jamais en dessous de la barre des 5 minutes. Donc j'avais appelé la maternité une fois, deux fois. Elle m'avait dit, restez chez vous tant que tu peux. Enfin, allez, tant que vous pouvez rester chez vous. Et vers 4h30 du matin, j'en avais vraiment marre. Et là, j'ai appelé ma sœur en disant, j'ai besoin d'un coup de boost parce que ça n'avance plus là. Et j'ai regardé 50 épisodes de Desperate Housewives sur mon ballon et j'en peux plus, quoi. Je voulais prendre des douches, mais il n'y avait plus d'eau chaude chez moi cette nuit-là. Et donc, du coup, douche glacée, impossible. Je n'osais pas prendre de bain à l'époque. À la fin, je me souviens, parce que je ne sais pas pourquoi, j'avais trop peur de perdre les eaux dans le bain et de ne pas me rendre compte. Hyper paranoïaque, ça. Impossible de prendre des douches pour me détendre. Donc, j'étais sur mon ballon, je regardais Desperate et puis j'attendais, quoi. Et à 4h30 du matin, vraiment, là, j'en avais marre.
Et tu n'avais pas dormi de la nuit, du coup ?
Non.
Cette nuit-là ?
J'attendais, quoi. J'ai encore un vieux selfie sur mon ballon. Je l'ai retrouvé la fois dernière. Et donc, j'ai appelé ma sœur et on a parlé, genre, une demi-heure. Et ça a fait que je suis passée direct en dessous de la barre des 5 minutes. Donc, les derniers jours, j'avais des gens autour de moi, dans ma périphérie à Bruxelles, qui ouais. gardaient leur téléphone ouvert la nuit, au cas où. En se disant, t'appelles l'un de nous, s'il y en a un qui répond pas, tu vas chez le suivant, et voilà. Donc, je pense qu'ils me l'ont pas trop dit, mais je pense que c'était un peu le stress de la fin, quoi. Et j'ai appelé Pauline en disant, bah, je crois que j'accouche, donc viens me chercher, quoi. Elle est arrivée, genre, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment dans son sommeil à 5h15 du matin. Et moi, je venais de faire toute la nuit, mais j'étais prête. Franchement, j'étais zen. J'étais prête. Je crois, sans prétention aucune, que je gérais bien les contractions. Et donc, je lui ai dit, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je lui ai dit juste, on dit souvent qu'il faut manger, tu vois, beaucoup, mine de rien.
Pour avoir l'énergie.
Pour avoir l'énergie et tout. Je lui ai dit, je lui mets une tartine de miel. Elle m'avait fait deux tartines de miel. Je suis rentrée 3 jours après avoir accouché. Il restait les deux tartines de miel. Et j'avais juste mordu un truc, tout séché. Et on a pris mon sac et on est parti, quoi. Et j'ai appelé ma mère en disant, bah, rejoins-nous à l'hôpital, du coup. Et je suis arrivée vers 6h du mat. J'ai fait un test Covid. Et puis, elle a checké mon col et j'étais à 6 cm.
Déjà.
Ouais, donc j'avais vachement bien avancé. Je me souviens que j'avais dit à Pauline, si je suis à 3 cm, je suis contente. Donc ça, c'était vraiment cool parce que je me suis dit, trop bien. J'étais hyper fière de moi, je me disais, bien joué, quoi.
Et est-ce que t'as perdu les os, en fait ?
Non.
Non.
Tout à la fin. Mm-hmm. Donc en fait, Mia, elle a été hyper protégée parce qu'elle est tout le temps restée dans sa bulle. Et là, commençait à devenir compliqué. Elle me dit, est-ce que tu veux la péridurale ? Et j'ai dit oui. Elle me dit, on change d'anesthésiste à 7h du matin, donc je te conseille d'attendre 7h du matin. Donc j'étais là, oui, au point où j'en suis. Et elle m'a dit, on te mettra à la première. Donc ce sera toi en premier. Donc 7h20, il est arrivé. Sauf que ma péridurale n'a pas du tout fait effet. Vraiment pas du tout. Et en fait, là, ça a complètement ralenti tout pendant plusieurs heures parce que j'avais super mal. Et jusqu'à un moment où j'ai vraiment pleuré en disant, genre, en fait, j'ai mal, j'ai vraiment mal, quoi. Et comme je viens déjà de tout faire la nuit, je vous dis pas ça parce que...
Ouais, là, t'étais...
Non, là,
tu
je suis... Ouais, là, j'ai... Ouais.
Okay.
Il est revenu, il a refait je sais plus quoi, je sais plus dire s'il a remis un shoot ou je sais plus ce qui s'est passé. Mm-hmm. Mais là, j'étais du coup complètement défoncée. Parce que du coup, il a fallu attendre longtemps avant que je le sois moins pour réussir à pousser. Et même si j'avais fait des exercices pour apprendre à pousser et tout, j'arrivais pas. À le faire correctement,
rien,
quoi.
Ou...
Je sentais plus rien, je poussais pas bien. Et mon gynéco, je voulais absolument accoucher avec lui. Absolument,
ouais.
Évidemment. C'était la clôture et je voulais absolument accoucher avec lui. Et il avait un colloque et il présentait. Et donc il m'avait dit, si possible, essaye d'attendre 13h, quoi.
Ah oui, quand même.
J'étais quand même déjà depuis 6h du mat. Et donc ben, j'ai attendu qu'il arrive, quoi. J'ai vraiment attendu. Et à la fin, genre, quand il est arrivé... Il y a eu une demi-heure entre le moment où elle est arrivée et elle était là, quoi.
Ah oui, ok.
Ça a vraiment été rapide. Je voulais pousser, faire la poussée toute seule, sans ma maman, et pour être la première à rencontrer Mia, et je crois que j'ai poussé 20 minutes. Et puis voilà, elle a pris le sein direct, et après j'ai pleuré pendant des heures.
Pourquoi ? Tu te souviens de ce que t'as ressenti à ce moment-là, quand elle était enfin là ?
Parce qu'elle était là, et que c'était la réponse à tout, quoi. Vraiment, et que les planètes s'alignaient, et ouais, vraiment, qu'elle était là. Que ça n'avait valu la peine, que j'avais pas fait d'erreur, quoi. Tu te souviens quand je te disais je veux rien regretter, ben voilà. Ça a été la réponse à tout, et j'ai mis longtemps à plus pleurer en parlant de mon accouchement. Vraiment longtemps, parce que pour moi ça a été super intense, mais positif, quoi.
Oui.
Super intense positivement, et vraiment c'était incroyable qu'elle soit là, quoi.
En fait, t'as un peu déchargé tout ce que tu venais de vivre ce jour-là.
Oui, et je pense que même les mois précédents, je ne m'autorisais pas à craquer. Et j'ai vécu beaucoup de choses en apnée parce que c'est comme ça que je le voyais. Et c'est ma vision de la vie d'avancer, quoi.
Et donc, le retour à la maison, tu rentres toute seule ou tu demandes à ta maman qu'elle reste avec toi ?
Ma petite sœur est restée la première nuit. Je ne sais plus trop après, mais en tout cas, ma mère est venue tous les jours.
Mm-hmm.
Et puis, ça s'est passé. Au fur et à mesure, mais j'avais souvent des gens. Déjà parce que je suis sociable et que j'avais besoin de voir des gens. Mais ma maman, au début, est venue tous les jours. La règle, c'était, si tu veux venir voir le bébé, t'amènes à manger. Et donc, du coup, tout le monde amenait trop. Et j'avais tout le temps à manger.
Mm-hmm.
Et mes potes venaient plus tôt. Et comme ça, ils la gardaient le temps que j'allais prendre une douche, faire une lessive.
Juste, ça, c'est une règle que tout le monde devrait mettre en place, je trouve.
Mais tout le monde, quoi. Et c'était incroyable. J'ai pas dû cuisiner pendant 2 mois, je crois.
C'est trop bien. T'as tellement bien fait.
Et c'était vraiment ma règle numéro 1. Tu veux voir le bébé ? T'amènes à manger. Jamais personne m'a dit, genre, un peu compliqué que j'amène une quiche. Enfin, non.
Et tu me disais, donc, ton postpartum a été quand même compliqué. Tu t'en rends compte
Déjà le troisième jour.
Ouais.
Et puis, des hauts et des bas. J'ai trouvé ça compliqué hormonalement. Parce que du coup, pour moi, c'était vraiment c'est la première fois où j'avais plus rien du tout, quoi.
Ah oui,
j'avais les hormones d'allaitement, mais quand j'ai arrêté l'allaitement, ça a été super difficile. Parce que je pleurais tout le temps, en fait. J'avais des jours où je pleurais non-stop et je savais pas dire pourquoi. C'est juste, c'est ton postpartum. Hein. Et j'ai même été voir mon gynéco en disant ça va pas. Je sais pas si c'est hormonal ou quoi, et ça va pas. Et là, on a parlé du postpartum et il m'a demandé de retourner chez la psy, et ce que j'ai fait à ce moment-là. Et en effet, et il m'a remis sous pilule pour avoir un niveau d'hormones, que je me sentais trop seule, ou que c'était une journée négative pour Mia et ça n'allait pas. Et du coup, je prenais ma poussette, je sortais et je marchais, quoi.
Mm-hmm.
Et moi, c'est ma réponse, en règle générale, c'est juste d'avancer. Mais du coup, je pense que je me mets souvent en apnée, de me dire il faut que tu tiennes, quoi. Amandine avait accouché 3 semaines avant moi, donc elle était vraiment passée par là juste avant moi, et c'était génial. Mon amie Eugénie aussi était enceinte, a accouché 2 jours avant moi. Et ça aussi, ça a été un luxe incroyable d'avoir mes amies enceintes en même temps que moi, et on était toutes les trois en congé maternité en même temps, quoi.
Ah oui, ce qui t'a permis de partager tout ce que tu,
ce
que tu traversais.
Ouais, ouais, l'allaitement, moi j'ai trouvé que l'allaitement c'était super dur, plus dur que d'accoucher. Et on vivait les mêmes choses au même moment, et elles ont été mes deux piliers parce que oui, elles savaient ce que je vivais, et que je pense que même si t'es en couple, quand tu viens d'accoucher, je pense qu'en tant que maman, tu te sens seule. En tout cas, je peux comprendre que tu te sens vite seule, et le mec ou la personne qui est à côté de toi, pas toujours un mec, mais qui ne peut pas spécialement comprendre ce que toi, t'es en train de vivre dans ton corps et te réadapter et tout. Et elles deux, elles étaient vraiment à ce moment-là, en tout cas, des piliers pour ça.
Tes amis qui vivaient à peu près la même période.
Oui, oui, ça a aidé.
Ça t'a aidé.
Ouais, ouais, super fort. Parce qu'on s'écrivait la nuit avec Amandine quand on allaitait, genre, j'en peux plus, 40 minutes qu'elle tête, je veux juste que quand ça va durer. On s'écrivait pendant la nuit, et oui, oui, clairement. On a passé des journées ensemble avec les bébés, on les tapait dans leur maxi-cosy, et on commandait un quick, et ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Et puis aussi, j'avais des gens qui vivaient la même chose que moi. Donc déjà, ça, c'était vraiment un luxe.
Ça t'est arrivé de décrocher ton téléphone et de dire, là, j'en peux plus, il faut venir m'aider?
Ça m'est arrivé de prendre ma voiture et d'aller chez mes parents en disant j'ai besoin de venir. Ouais. Ouais. Oui, oui, complètement. Oui, complètement, parce que... Mais au début, t'es épuisée, donc c'est dur, quoi. C'est dur de demander de l'aide. Tu vois, c'est dur de se mettre dans une position vulnérable, de dire j'ai besoin d'aide. Mais pour ça, c'est ça qui fait que moi, aujourd'hui, je sais qu'on est en sécurité toutes les deux, quoi, parce qu'on a tous ces gens-là derrière nous.
Quel conseil, toi, tu donnerais aux mamans solo qui pourraient traverser la même chose que ce que tu as vécu?
Vraiment d'avoir des personnes ressources, quelles qu'elles soient, même si t'es tout seul, et même si c'est pour toi, les nuits, les pleurs, les tout, au moins tu sais que derrière, si ça va vraiment pas, moi je me dis toujours ça dans ma tête, quoi. Si demain je pète un câble et que ça va vraiment pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de moi. Quand les pleurs du soir, les pics de croissance, ce que j'ai trouvé horrible, les pics de croissance, personne ne te prévient que ça existe. Les montées de lait, enfin, tu sais, les moments un peu difficiles des 12 premières semaines, c'est par quoi tu dois passer. Je me disais, ça va passer en fait, demain c'est un autre jour et il se passera autre chose. Je pense qu'avant j'avais du mal avec l'imprévu et j'aimais bien l'organisation. J'aime bien l'organisation, toujours maintenant, mais je pense juste que tout ça, ça m'a appris que même quand tu fais des plans, bah, déjà... En fait, non.
tu te dois d'être flexible en tant que parent.
Et puis, et dans ma tête, je me disais tout le temps, ça va passer.
Comment était Mia les premiers jours, les premières semaines?
Elle était hyper calme. Mais moi, je te dis, comme pendant ma grossesse, j'attendais le pire. Je me disais, ça va arriver, quoi, les coliques et tout. Et en fait, il ne s'est jamais rien passé. Elle a eu des pleurs du soir.
Oui.
Mais c'est tout. J'en avais parlé à ma sage-femme et je lui avais dit « je comprends pas, quoi. Elle est hyper zen. » Et elle m'avait dit « bah, c'est un bébé comblé. » Et ça m'avait tellement marqué, j'en avais pleuré vraiment de « wow, c'est hyper intense. »
T'avais besoin d'entendre ça?
Ouais,
aussi,
j'avais besoin d'entendre
ça.
Ouais, super fort. Et de dire aussi bah, « on en revient toujours à ce que j'ai vécu à mon accouchement, les planètes sont alignées, quoi. » Elle était hyper zen et encore maintenant, en fait. Elle écoute.
Comment ta vie de maman solo se met en place?
Avec mes horaires flexibles du boulot, ça va. Je pense qu'avec l'école, quand elle sera à l'école, ce sera peut-être un peu plus chaud à voir avec la garderie. Encore une fois, mon réseau babysit quand j'en ai besoin. Mm-hmm. Quand je sens que j'ai envie de faire une soirée hors de la maison. Quand t'as un enfant, tu perds ta spontanéité. De fêtes, de soirées, de côté sociable, enfin ta vie, quoi. Et moi, j'ai toujours adoré faire la fête. J'ai toujours été hyper partout, tout le temps, au cinéma, j'ai tout le temps des trucs. Et faire le deuil de ça, c'était compliqué pour moi et je voulais pas vraiment. Je voulais pas juste être sa maman, quoi. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, je veux pas juste être sa maman, je veux être d'autres personnes que sa maman, je veux être, ouais, une femme célibataire, une amie... Et une bosse pour mon équipe. Et je voulais garder un équilibre.
Puisque tu as l'art, visiblement, de dédramatiser chaque situation. Nous expliquer quelques galères de maman solo avec Mia que tu as pu rencontrer, peut-être.
En fait, tu es tout seul, donc tu peux jamais la donner à quelqu'un. Dans les bras, la journée, si tu veux prendre ta douche ou juste, en fait, faire pipi. En fait, tu l'as tout le temps partout avec toi. Parce qu'il n'y a que toi. En fait, je devais trop faire pipi, j'en pouvais plus et je savais plus où la poser et je l'ai déposée dans la manne à linge. Vraiment, genre, il y avait ma toilette et juste en fait, il y avait la manne à linge et en fait, j'ai vraiment dit, genre, en fait, je te mets là parce que je sais pas quoi faire. Et juste, je l'ai mise là. Tu sais, quand ton cerveau, ça bug. Je l'ai déposée dans la manne à linge et elle m'a vraiment regardée avec un regard, genre, tu te fous de ma gueule, hein? Pourquoi je suis là? Et j'ai juste fait pipi et j'avais un rire hyper nerveux, genre, vraiment, genre, qu'est-ce que je fais, quoi? Vraiment, c'est quoi cette histoire? Et elle a vraiment, vraiment un regard de haine, genre... Non, je suis dans le linge sale, je suis dégoûtée
et
tout.
Et t'arrives encore à avoir un peu de temps pour toi?
C'est la prochaine étape. C'est dur parce que ça m'arrive de rouvrir mon ordi le soir quand elle est au lit ou de juste plus avoir l'énergie, en fait. C'est vraiment ma prochaine étape. C'est vraiment d'essayer d'arriver à me faire un espace mental pour faire quelque chose pour moi. Mais j'aimerais bien trouver quelque chose de qualité dans la semaine. Donc je me dis, est-ce que sur du long terme, j'aurais pas une nounou, c'est de 5 à 7, qui vient nous aider à la maison et je fais du sport ou quelque chose comme ça.
Ouais. Imagine, il y a 3 ans, t'aurais peut-être pas imaginé en être là aujourd'hui. T'as quand même un sacré parcours,
tout.
Quoi.
Mais il y a 3 ans, mais déjà, je me disais, non, je vais jamais tomber enceinte. Je vais jamais y arriver.
Et donc, comme quoi, ça a été tellement rapide.
Ouais, ça a été super rapide. Franchement, ça a été super rapide. Mais c'est parce qu'aussi j'étais bien entourée médicalement sur la fertilité. Et c'est mon deuxième conseil aux mamans qui essayent, c'est de demander un deuxième avis, d'aller voir d'autres gens si elles ont un doute, si elles se sentent pas bien renseignées ou si ton instinct te dit Il y a un problème. Il y a plein de gynécos qui existent et ça vaut la peine d'aller voir quelqu'un d'autre et juste de demander un deuxième avis sur ce qu'elles sont en train de vivre. Et si elles se sentent jugées, encore plus d'aller voir ailleurs. Et c'est un peu ma conclusion de tout ça, quoi. C'est qu'en fait, j'ai essayé de lutter pendant des mois contre l'injustice de ce que j'étais en train de vivre et en fait, ça sert à rien. J'ai plus d'énergie à perdre.
Et toi, aujourd'hui, justement, comment tu te sens ?
Ben, mieux. Ça m'a mis un an de me dire que j'étais fière de moi. De prendre du recul, en tout cas, et de me dire... de vraiment me dire... Ouais, bien joué. Tu t'en es bien sortie. Et aujourd'hui, ce que je te disais au début, quand je repense à tout ça, maintenant, je repense plus aux anecdotes marrantes, genre la Jordanie et des trucs comme ça, qu'à ce jour où on m'a appelée pour me dire « c'est maintenant ou jamais, quoi ». Il est noté dans mon calendrier, hein. Je sais quel jour c'est, et je sais que ce jour-là, j'ai une petite pensée pour ma vie d'avant, et oui, clairement, c'est jamais très très loin, mais en tout cas, maintenant, j'arrive à y penser en me disant « ben, c'est derrière moi ».
Et le fait d'être famille monoparentale, est-ce que tu l'as accepté maintenant ?
Oui, plus parce que je pense que comme on vieillit, je vois de plus en plus de schémas familiaux différents qui fonctionnent. J'ai évidemment plein de familles recomposées autour de moi. Et je pense que le fait de voir que ça fonctionne ailleurs, ça me fait me dire genre, pourquoi pas moi ? Et pendant longtemps, vraiment pendant très longtemps, je me suis dit, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait de moi. Avec mon histoire un peu dingue et ma féminité qui en a pris un coup et voilà. Et parfois, ça me prend encore de me dire, genre, je vois pas pourquoi. Mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux de me dire, en fait, si, quand quelqu'un t'aime, il t'aime. Avec toute ton histoire et tout le monde a du vécu derrière, maintenant, j'accepte plus que ça fonctionne. Même si, clairement, j'aurais pas cette réponse avant très longtemps et peut-être que je l'aurai jamais, je me demande toujours, est-ce que je suis suffisante comme parent unique ? Est-ce que je suis assez pour elle ? Ma grande question, c'est est-ce qu'elle va m'en vouloir de pas être dans la norme ? Ça, c'est ma plus grande peur sur le futur, quoi. Ce qui est dur pour moi, c'est est-ce qu'elle va m'en vouloir de pas avoir de papa ? Mais pourtant, elle sait pas ce que c'est parce qu'elle en a pas. Mm-hmm. Donc ça peut pas lui manquer vu qu'elle en a pas. C'est juste que moi, je me projette et que si j'avais plus le mien aujourd'hui, ce serait terrible. J'ai peur qu'elle m'en veuille. Mm-hmm. D'avoir fait ce choix-là pour elle, mais déjà faire des enfants, c'est égoïste. Mais là, je me dis, est-ce que j'ai été doublement d'en faire un toute seule ? Peut-être, je sais pas trop.
Tu envisages de lui expliquer comment, son histoire ?
Par des livres, par l'expliquer en fait, par juste expliquer le fait qu'il y a plein de familles différentes et que c'est la nôtre et que j'avais tellement envie de la rencontrer que j'ai tout fait pour. Et donc je pense que c'est comme ça que je vais lui expliquer. Et encore cette histoire de donneur qui nous a permis de nous rencontrer. Et voilà, et quand elle sera beaucoup plus grande, elle comprendra... plus les tenants et aboutissants médicaux, hein, c'est sûr, mais de toute façon, elle sait qu'on est deux.
Et je suis certaine que tu trouveras les mots pour qu'elle le comprenne, en tout cas. Merci, Justine, de nous avoir partagé ton histoire très riche en émotions, et bravo à toi, surtout, pour ce beau parcours. Embrasse ta petite Mia pour nous.